Jour 6. Vous et l'exceptionnalisme blanc. Les blancs veulent désespérément croire que seuls les membres du club réservé aux blancs solitaires et isolés sont racistes. C'est la raison pour laquelle le mot raciste offense si profondément les gentils blancs. Ce terme remet en question l'image de gens bien qu'ils ont d'eux-mêmes. Malheureusement, la plupart des blancs s'inquiètent plus d'être traités de racistes que de savoir si leurs actes sont vraiment racistes ou nuisibles. Austin Channing Brown. Qu'est-ce que c'est ? L'exceptionnalisme blanc, c'est croire que, en tant que détenteur de privilèges blancs, vous êtes immunisé contre les effets, les avantages et le conditionnement de la suprématie blanche, et que par conséquent, le travail antiraciste ne vous concerne pas vraiment. J'en suis venu à considérer l'exceptionnalisme blanc comme une arme à double tranchant. D'une part, il évite aux détenteurs de privilèges blancs de faire un travail sur eux, parce qu'ils ne sont pas racistes et font partie des gentils. D'autre part, il nuit aux personnes noires autochtones et de couleur, car les blancs comptent sur elles pour démanteler la suprématie blanche. Il est bien connu que le racisme n'est pas le problème des blancs. Ce ne sont pas les nationalistes blancs ni les racistes fiers de l'être qui ont un sentiment d'exceptionnalisme blanc. Ceux-là revendiquent souvent leurs convictions haut et fort. Ils savent parfaitement qui ils sont, ce qu'ils font et qui représentent une menace à leurs yeux. Au contraire, c'est souvent les progressistes qui s'imaginent que leurs idées les séparent du racisme de l'extrême droite. Ce sont les détenteurs de privilèges blancs persuadés de ne pas faire obstacle à l'antiracisme qui arborent l'exceptionnalisme blanc comme un emblème. Je ne me sens pas concernée, j'ai voté Obama, j'ai des amis noirs, je suis déjà sortie avec des personnes noires, autochtones ou de couleur. Mes enfants jouent avec des personnes de couleur. Je suis aveugle à la couleur. Quand les gens parlent de racisme et de suprématie blanche, ils doivent parler d'autres blancs, pas de moi, moi je suis quelqu'un de bien. Ça vous rappelle quelque chose? Aucune de ces déclarations pleines d'assurance censées prouver votre innocence n'efface la réalité. Que vous vous en aperceviez ou pas, vous avez été conditionné pour adhérer à une idéologie suprémaciste blanche. On vous attribue des avantages immérités, appelés privilèges blancs, que vous le vouliez ou non. Même si vous connaissez des difficultés dans votre vie personnelle et que d'autres identités et expériences vous valent d'être dominées, ce n'est pas à la couleur de votre peau que vous le devez. Et rien, ni le fait de voter Obama ou de sortir avec des personnes noires, autochtones et de couleur ne peut effacer ça. Comment le reconnaître? Voici quelques exemples d'exceptionnalisme blanc en action. À chaque fois que vous avez lu une piste d'introspection et que vous avez pensé « je ne fais pas ça » ou « cela ne s'applique pas à moi » ou « je n'ai jamais pensé ça » et « je ne penserai jamais ça ». C'était de l'exceptionnalisme blanc. C'est l'exceptionnalisme blanc qui vous convainc que vous n'avez pas vraiment besoin de faire ce travail, que vous le faites parce que c'est louable mais que vous n'avez pas besoin d'approfondir autant qu'on vous le demande. L'exceptionnalisme blanc, c'est cette petite voix qui vous convainc que vous pouvez lire ce livre mais que vous n'avez pas besoin de faire les exercices. Que parce que vous comprenez les concepts présentés dans cet ouvrage, vous n'êtes pas obligé de vous astreindre à répondre par écrit aux questions posées, qu'il vous suffit d'y réfléchir. L'exceptionnalisme blanc, c'est croire qu'il vous suffit d'avoir lu des livres et des articles antiracistes, écouter des podcasts en faveur de la justice sociale, regarder des documentaires sur les effets du racisme, et être abonné aux publications de militants et de pédagogues noirs, autochtones et de couleurs sur les réseaux sociaux, pour ne plus rien avoir à apprendre, ni avoir besoin d'approfondir. L'exceptionnalisme blanc, c'est l'idée que, d'une certaine manière, vous êtes spécial, affranchi, au-dessus de tout ça, que vous avez dépassé ce stade, que vous êtes passé à autre chose, et que ce phénomène appelé la suprématie blanche ne vous concerne plus, que les autres blancs sont suprémacistes, mais pas vous. Cette idée va de pair avec la supériorité blanche et la conviction que vous avez déjà travaillé sur votre antiracisme, que vous avez déjà prouvé votre bonne foi, et que vous n'avez donc plus besoin de vous mobiliser ni de vous investir. L'exceptionnalisme blanc, c'est répondre vexé, tous les blancs ne sont pas comme ça, aux personnes noires autochtones de couleur qui évoquent le comportement des blancs. Pourquoi faut-il vous pencher sur la question? L'exceptionnalisme blanc est endémique parmi les blancs progressistes, adeptes de spiritualité, convaincus que ces caractéristiques les exonèrent ou les placent au-dessus de la mêlée. C'est faux. Et cette conviction fait de vous une menace pour les personnes noires autochtones de couleur car elle vous rend aveugle à votre complicité et vous empêche d'écouter quand on vous la renvoie. Dans sa lettre de la prison de Birmingham, Martin Luther King a illustré les dangers de l'exceptionnalisme blanc dont font souvent preuve ceux qu'il nomme les blancs modérés. Je dois d'abord avouer qu'au cours de ces dernières années, les blancs modérés m'ont terriblement déçu. J'en suis presque arrivé à la regrettable conclusion que le grand obstacle des noirs dans leur avancée vers la liberté, ce ne sont pas les suprémacistes, membres du White Citizen Council ou du Ku Klux Klan, mais les blancs modérés plus attachés à l'ordre qu'à la justice. Qui préfèrent une paix négative, c'est-à-dire l'absence de tension, à une paix positive, c'est-à-dire la présence de la justice. qui ne cessent de répéter « j'approuve votre objectif, mais je ne peux pas approuver vos méthodes d'action directe », que leur paternalisme pousse à croire qu'ils peuvent programmer la liberté d'autrui, qui vivent selon un concept mythique du temps et ne cessent de conseiller aux gens de couleur d'attendre une saison plus propice. Une compréhension superficielle de la part des gens de bien est plus frustrante que l'incompréhension absolue de la part des gens de mauvaise volonté. L'adhésion tiède est bien plus déroutante que le rejet franc et massif. Voici la leçon centrale de notre chapitre du jour. Si vous vous croyez exceptionnel, vous ne travaillerez pas. Si vous ne travaillez pas, vous continuerez à nuire, même involontairement. Vous n'êtes pas un blanc exceptionnel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas immunisé contre le conditionnement de la suprématie blanche, les avantages du privilège blanc, et n'êtes pas exonéré de la responsabilité de poursuivre le travail antiraciste pour le restant de vos jours. Dès que vous commencez à vous croire exceptionnel, vous retombez dans le confort douillet et familier de la suprématie blanche. Dans son essai « Racisme, un problème de blanc », publié dans l'anthologie féministe « Toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses », Ellen Pence, militante blanche, décrit sa prise de conscience de son exceptionnalisme blanc. Ayant grandi avec un père ouvertement raciste qui prêchait la supériorité naturelle des blancs, elle croyait qu'il lui suffisait de ne pas partager ses convictions pour être une gentille blanche. Dans son essai, elle décrit sa participation aux manifestations pour les droits civiques, révèle avoir envoyé à Martin Luther King l'argent gagné en faisant du babysitting, et s'être confessée aux prêtres noirs de leur paroisse majoritairement blanche. Autant de signes à ses yeux qu'elle n'adhérait pas à l'idéologie raciste de son père. Cependant, en s'impliquant davantage dans le travail bénévole contre les violences faites aux femmes, elle a commencé à exprimer son exceptionnalisme blanc. « J'ai vu des Noirs et des Amérindiennes accuser des féministes blanches de racisme. Je ne pouvais pas être concernée. Moi aussi j'étais dominée par l'homme blanc. Alors quand j'ai entendu les femmes de couleur parler de privilèges blancs, j'ai inséré mentalement le mot « homme » dans la formule, les privilèges de l'homme blanc. Avez-vous déjà fait cela? Avez-vous cru de toute votre âme ou inconsciemment que vos actions antiracistes et ou vos autres identités marginalisées faisaient de vous une exception en matière de suprématie et de privilèges blancs? » Piste d'introspection pour votre journal. Question 1. Vous est-il déjà arrivé de vous croire exceptionnel, immunisé, un gentil blanc, pas concerné par le conditionnement de la suprématie blanche? Expliquez comment. Question 2. Avez-vous fait valoir votre exceptionnalisme blanc auprès de personnes noires, autochtones et de couleur au cours d'une conversation sur le racisme? Par exemple, quand on vous a critiqué pour un acte involontaire de racisme, avez-vous essayé d'expliquer ou de démontrer que vous êtes un gentil blanc? Expliquez comment. Question 3. Relisez la citation de Martin Luther King. Repensez au sujet abordé jusqu'ici dans ce livre. Comment votre exceptionnalisme blanc vous a-t-il empêché de vous mobiliser et d'être solidaire de personnes noires, autochtones et de couleur? Question 4. Repensez à votre enfance. Comment la société, parents, écoles, médias, vous a-t-elle inculqué exceptionnalisme blanc? Question 5. Si vous êtes parent, comment inculquez-vous l'exceptionnalisme blanc à vos enfants?